Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Albert-Ganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Sur le site de Sciences publiques, sur franceculture.com, vous pouvez participer à cette émission en nous adressant vos réflexions et vos questions sur notre débat d'aujourd'hui. Peut-on opérer sous hypnose ? L'hypnose reste encore aujourd'hui entourée de mystères et de croyances diverses. Le phénomène, généralement décrit comme un état modifié de conscience, est surtout connu pour ses utilisations dans les spectacles de music hall. Pourtant, les applications de l'hypnose sont bien plus larges et sérieuses. Les psychothérapeutes font encore souvent appel à elle. Ils s'inscrivent ainsi dans la lignée de Jean-Martin Charcot et de ses travaux sur l'hystérie à partir de 1878, qui inspireront Sigmund Freud et Hippolyte Bernheim, qui créent le terme de psychothérapie en 1891 pour désigner sa pratique de l'hypnose médicale. Ces techniques étaient déjà utilisées, semble-t-il, par les guérisseurs chamaniques et les Sumériens il y a 6000 ans. C'est Étienne de Cuvillier qui crée le terme moderne d'hypnose en 1820. Une telle ancienneté n'empêche pas la pratique de l'hypnose de conserver un caractère sulfureux et de susciter l'incrédulité. En 1992, au CHU de Liège, l'anesthésiste Marie-Élisabeth Fémonville réalise la première utilisation de l'hypnose lors d'une opération d'ablation d'une petite tumeur au genou. Depuis, elle a effectué plus de 5000 hypnosédations, c'est-à-dire l'utilisation conjointe d'un sédatif 5 fois moins puissant que lors d'une anesthésie générale et de l'hypnose. En France, le recours à cette méthode se développe, semble-t-il, lentement. Des équipes l'utilisent pourtant à Rennes, Colmar, Strasbourg ou Toulouse. Et depuis 8 ans, le CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris délivre un diplôme universitaire d'hypnose médicale. Comment fonctionne une anesthésie sous hypnose? Lors de quelles opérations chirurgicales peut-on l'utiliser? Quels patients y ont recours et pour quels bénéfices? Que ressentent-ils pendant l'opération? Pourquoi cette technique n'est-elle pas plus développée? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences publiques Jean-Marc Benayem, qui est praticien au centre de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne. Il est président de l'Association française pour l'étude de l'hypnose médicale, la FEHM, et cette association assure la formation à l'hypnose à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière. Marie-Élisabeth Fémonville est chef de service associé dans le département d'anesthésie et réanimation du centre de la douleur du CHU. Je suis de Liège et elle est directrice du Centre de la douleur et des soins palliatifs de ce même CHU. Laurent Jouffroy est anesthésiste réanimateur à la clinique de Diaconesse à Strasbourg et vice-président de la Société française d'anesthésie réanimation, la SFAR. Et nous aurons le témoignage de Nicole Botson, qui est une ancienne patiente opérée sous hypnose au CHU de Liège. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos témoignages et vos questions sur le site de Sciences publiques, sur franceculture.com. Nos invités pourront y répondre en direct dans la seconde partie de l'émission, si vos messages nous sont parvenus avant 14h30. Mais pour entamer ce débat, donc, je vous propose d'écouter le témoignage de Nicole Botson, qui est secrétaire au CHU de Liège, ancienne patiente de Marie-Élisabeth Fémonville. Et dans la première partie de ce témoignage, qui a été enregistré par téléphone il y a quelques jours, Nicole Botson explique ce qui s'est passé avant l'opération.
Il y a un an, j'ai subi une greffe pariétale, c'est-à-dire c'est une greffe de l'os du crâne, parce que j'avais préalablement eu un problème au niveau de la mâchoire et on devait reconstruire l'os de la mâchoire en faisant une greffe au niveau de mon crâne pour réimplanter l'os. Je suis allée voir un chirurgien au CHU de Liège et ce chirurgien m'a d'emblée proposé de faire cette intervention-là sous hypnosédation. Personnellement, je n'y aurais jamais pensé. Et on m'a proposé un rendez-vous auprès du professeur Fémonville, qui est anesthésiste réanimateur et qui pratique donc l'hypnose au bloc opératoire. Et pendant la consultation, elle m'a fait tous les examens habituels et elle m'a bien expliqué ce qu'était l'hypnose et puis ce qu'était la sédation. Donc, elle m'a expliqué que l'hypnose, en fait, très souvent, on était dans un état d'hypnose sans le savoir. Par exemple, quand on se brosse les dents en rêvassant, ou quand on lit un bouquin vraiment passionnant et qu'on oublie, on oublie vraiment ce qui se passe autour de nous, ou même quand on conduit sa voiture, eh bien, quand on conduit sa voiture plutôt machinalement, on est dans un état d'hypnose, mais on ne le sait pas. Elle m'a aussi expliqué ce qu'était la sédation, donc elle m'a dit que j'allais avoir une perfusion de sédatifs, donc de médicaments. Elle m'a bien expliqué que j'allais rester consciente durant toute l'intervention et que donc j'avais le choix de faire l'intervention sous hypnosédation ou sous anesthésie générale. Alors pour éviter une anesthésie générale, j'ai décidé qu'on pouvait la faire sous hypnosédation. Je n'ai aucun problème pour supporter une anesthésie générale, mais je trouvais que c'était plus confortable de ne pas en avoir si on pouvait les éviter, parce que après l'intervention, on est, je pense, beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu quand on n'a pas eu une anesthésie générale. J'avais un peu peur que l'hypnosédation ne fonctionne pas. Mais Mme Fémonville m'avait bien expliqué que de toute façon, le patient est préparé pour une anesthésie générale. Et à moi-même, on m'avait demandé d'être à jeun depuis la veille minuit. Donc, je suis arrivée à l'hôpital en sachant que si jamais l'hypnose n'allait pas fonctionner, on allait me faire une anesthésie générale. J'avais aussi demandé si on pouvait faire un petit essai d'hypnose pendant la consultation, mais ce n'est pas prévu. Donc, on fait l'hypnosédation le jour où on fait l'intervention.
Donc voilà la première partie. Nous écouterons le récit de l'opération elle-même au début de la seconde partie de cette émission. Ne le ratez pas car il est assez saisissant. Marie-Elisabeth Fémonville, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes avec nous par téléphone.
Oui. Et
Nicole Botson était donc une de vos patientes. Vous avez assuré cette anesthésie par hypnosédation. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement de quoi il s'agit ?
Donc, en cours de chirurgie, on reçoit aussi un tout petit peu de médicaments. C'est un médicament qui diminue le stress et l'anxiété et un autre médicament qui diminue la perception de la douleur. Mais les doses de ces médicaments sont données de façon à ce que le patient reste conscient. Ça, c'est essentiel parce qu'on ne peut être en hypnose que quand on est conscient. Donc, au début, on commence à aider le patient à ce qu'il se met en hypnose. Et puis après, on potentialise, c'est-à-dire on fait que cette hypnose est encore plus efficace en ajoutant ces faibles quantités de médicaments.
Alors, ce qui est frappant dans le témoignage de Nicole Botson, c'est le fait que c'était une première pour elle. Elle n'avait jamais été hypnotisée auparavant.
Oui, c'est tous les patients qui viennent pour avoir une chirurgie sous hypnosédation expérimentent l'hypnose pour la première fois au bloc opératoire. On ne fait pas de test avant, pas de test à blanc, parce que je considère, et les équipes aussi qui l'utilisent, qu'on n'est pas dans les mêmes conditions quand on l'essaye avant qu'au moment de la chirurgie. Donc ce n'est pas dit parce que ça marche avant que ça marchera pendant. Je pense aussi que le fait de faire confiance à une équipe et d'accepter de collaborer vraiment de façon intense avec l'anesthésiste qui travaille avec vous au moment de l'opération fait aussi qu'on a peut-être plus facilement à ce moment-là accès à ses propres ressources et on sait se mettre en hypnose dans ces conditions-là, alors que peut-être avant, on n'aurait pas pu avoir accès.
Très bien. On va revenir sur le détail du fonctionnement de cette hypnose médicale. Jean-Marc Benayem, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors pour rester sur ce point, ce point indique que tout le monde, semble-t-il, peut être hypnotisé dans le cadre d'une opération chirurgicale.
Si l'on part de point de vue qui me semble tout à fait vrai, que l'hypnose ou l'état hypnotique ou le processus de l'hypnose est un état naturel, on ne voit guère pourquoi quelqu'un en serait exclu. Mais il y a l'état naturel que nous sommes capables d'avoir, nous, quand on a besoin de réfléchir, ou bien pour laisser des automatismes fonctionner. Mais il y a aussi le contexte qui change tout. Donc pourquoi quelqu'un ne serait pas hypnotisable ? Eh bien, ce serait tout à fait explicable si le contexte dans lequel il est l'empêche, le bloque, l'inquiète. On pourrait même dire qu'au fond, les pathologies, en dehors de l'anesthésie, les pathologies que l'on voit, proviennent de ce que la personne n'arrive plus elle-même à se mettre en hypnose. Mais ça, c'est un autre Mais donc, pour la plupart, et je crois que le professeur Fémonville nous l'a déjà plusieurs fois expliqué, il y a peu de personnes qu'elle réfute, ce qui montre bien que c'est une façon tout à fait universelle de fonctionner.
Voilà, parce que je crois qu'il y a beaucoup autour de l'hypnose imaginaire, autour de d'abord la relation avec l'hypnotiseur, la faculté de l'hypnotiseur et la faculté de l'hypnotisé à être sous influence. Donc c'est
oui,
tout ça qu'il va falloir préciser.
Oui, vous mettez en
avance
le problème de la résistance.
Voilà. Laurent Jouffroy, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez l'association des anesthésistes réanimateurs, donc la société savante française dans ce domaine. Quelle est un petit peu, pour commencer ce débat, la position de cette association vis-à-vis de l'hypnose ?
La position d'une société savante à caractère scientifique, comme est la Société française d'anesthésie et réanimation, est bien évidemment de garantir que les techniques qui sont mises en œuvre et proposées aux patients apporte toute la sécurité d'abord et toute la qualité qu'ils sont en droit d'exiger. Dans ce cadre-là, les travaux de Maryse Fémonville, scientifique qu'elle a pu faire, je rappelle ce qu'elle ne dira peut-être pas, mais qu'elle a été à travailler il y a quelques années puisque sa thèse portait sur les mécanismes cérébraux, elle a prouvé les mécanismes cérébraux de fonctionnement de l'hypnose. La société française donc était là pour valider ou non une technique qui puisse s'appliquer dans un cadre tout à fait scientifique. Et la société française avait été d'ailleurs interpellée quand ces techniques sont revenues à la mode, on va dire, ou quand elles ont commencé à se développer dans certaines équipes en France. La société française avait été interpellée par l'Ordre national des médecins, bien évidemment, qui, dans un souci déontologique, s'inquiétait de savoir si cette technique était du charlatanisme, on en est toujours un peu là, ou si c'était vraiment une technique qui pouvait répondre aux exigences scientifiques qu'on était en droit d'attendre. Alors, évidemment, scientifiquement...
Ça, c'était à quelle époque ?
C'était l'interpellation de l'Ordre national des médecins date de 2004-2005. Hein, donc, vous voyez,
récent.
C'est tout à fait récent. Mm-hmm. Oui. Les premières formations à l'hypnose anesthésique, hein, dans le cadre de l'anesthésie, qui ont été mises en place à Liège par Maryse Fémonville à la fin des années 90. Donc, vous voyez, il y a 10 ans de formation. Mm-hmm. M. Benayem reparlera plus tard des formations qui sont aujourd'hui à disposition. Et il a donc fallu répondre à l'Ordre national des médecins de façon à ce que lui garantir que les praticiens qui proposaient cette technique ne faisaient pas autre chose que de la science. Donc, la position de la SOAR, c'était oui. C'est une technique validée, car aujourd'hui, les publications scientifiques, comme l'a rappelé Maryse Fémonville auparavant, sont nombreuses, de qualité, sont soumises aux exigences, même si il faut souligner que les contraintes scientifiques sont difficiles, parce que dans la recherche sur l'hypnose ou dans les études scientifiques, il est difficile de mesurer la transe hypnotique. Il est difficile de trouver des paramètres physiologiques qui soient mesurables de façon fiable et reproductible. Ensuite, il est difficile de faire ce que nous demandent nos éditeurs de publications scientifiques, du double aveugle, puisqu'on ne peut pas faire du double aveugle dans l'hypnose, vu qu'il faut bien que le patient ait une participation active à cette prise en charge. Et puis les collectifs sont restreints, les pratiques sont diverses, les pratiques ne sont pas standardisées. D'une école à l'autre, on peut faire de l'hypnose, mais pas toujours de la même manière. Donc la SFAR redit, et je redis ce qu'elle a dit, a répondu à l'Ordre national des médecins il y a quelques années. Oui, c'est une technique scientifique qui marche, qui est prouvée, qui est validée, notamment dans la prise en charge de la douleur. Monsieur Benayam en parlera mieux que moi, mais aussi dans certains domaines comme l'anesthésie pédiatrique et un certain nombre d'interventions chirurgicales.
Marie-Elisabeth Fémonville, la nouveauté, c'est peut-être justement ce caractère scientifique de l'hypnose. Jusqu'à présent, on était quand même resté avec une idée de difficulté à faire cette démonstration.
Oui, il faut savoir que les premières chirurgies réalisées sous hypnose seule datent de 1821, où la première publication a été faite au sujet de l'hypnose comme seule technique d'anesthésie. Avant 1846, on n'avait pas l'anesthésie générale, donc on opérait les gens à vif. Et dans un travail scientifique, Exdale, un chirurgien qui travaillait avec l'hypnose, montrait que le taux de mortalité descendait de, au lieu d'être à 40% à cette époque-là, descendait à 5% si on utilisait l'hypnose. Donc au fond, on n'a rien inventé en utilisant de nouveau de l'hypnose dans le domaine de la chirurgie.
Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on utilise dans le domaine de la chirurgie officielle que des techniques, comme l'a rappelé Laurent Jouffroy, qui ont été validées et non plus des techniques qui peuvent être un peu venues d'ailleurs.
Oui, mais ce qu'on a fait à ce moment-là, quand on a réintroduit la technique d'hypnose dans le domaine de la chirurgie, c'est qu'on a de suite voulu valider cette technique. C'est-à-dire on l'a comparée à d'autres techniques d'anesthésie qu'on utilise et on a vérifié si dans des études qui étaient prospectives, randomisées, comme la science l'exige, on a vérifié qu'elle apportait quelque chose de plus. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a pu, au niveau clinique, montrer que ça avait un intérêt. Et comme on avait ces études cliniques, à ce moment-là, on a pu aussi motiver des chercheurs qui font de la recherche plus fondamentale, d'investiguer quels sont les mécanismes au niveau du cerveau qui peuvent expliquer que les gens qui sont opérés sous hypnose disent qu'ils sont plus confortables et que ça nous permet d'opérer des gens en restant conscients, alors que avant, les techniques qu'on utilisait ne le permettaient pas. Par exemple, je pense à la chirurgie de la thyroïde. Vous n'avez pas d'équipe qui dise on l'opère uniquement sous anesthésie locale seule. Par contre, associé à l'hypnose, c'est possible de le proposer sous hypnosédation et de faire des chirurgies de la thyroïde avec cette technique.
Alors vous-même, je rappelle que c'est votre sujet de thèse, c'est ces mécanismes cérébraux à l'œuvre dans l'hypnose. Comment êtes-vous arrivé à ce choix de sujet?
C'est justement parce que je me disais, il y avait dans le fait de vouloir comprendre l'hypnose, il y avait deux grandes théories qui étaient avancées. Soit on disait que ça implique un état de conscience particulier, un état de conscience modifié, et l'autre courant de recherche en hypnose disait non, c'est un jeu de rôle. Or, je trouvais que c'était difficile de parler de jeu de rôle chez les patients en chirurgie parce que je pensais que les patients n'étaient pas là. Et quand on a une chirurgie, on ne fait pas plaisir aux chirurgiens. Si on n'est pas confortable, on le signale. Or, j'observais en pratique clinique que les gens étaient confortables. Donc, j'ai pu motiver un chercheur, Pierre Maquet, qui est un chercheur qui travaillait sur les états de conscience particuliers, sur le sommeil, s'il était d'accord d'investiguer ce que c'est l'hypnose. Et alors on a eu l'occasion de montrer que le fonctionnement du cerveau est différent quand un volontaire est en hypnose et pense à ses vacances agréables, il vit ses vacances agréables sous hypnose, que quand ce même volontaire, il est en conscience normale et pense à partir de ses vacances agréables. Donc le fonctionnement du cerveau est différent. Donc ça nous montre bien qu'il y a quelque chose de particulier que l'hypnose amène au niveau du cerveau. Et puis on a fait la recherche sur la douleur, on a voulu comprendre quelle est la région du cerveau qui module tout le fonctionnement du réseau de la douleur. Et là, différentes études ont été réalisées et publiées dans des journaux avec peer review, c'est-à-dire des journaux internationalement reconnus.
Très bien. Jean-Marc Benayem, justement, la douleur, vous êtes également un praticien du traitement de ce problème. Comment vous préciseriez-vous l'action de l'hypnose sur cette perception de la douleur par le cerveau?
Il me semble qu'il y a deux attitudes qui sont presque des techniques. C'est-à-dire que dans un cas, par exemple, quelqu'un est au bloc opératoire et peut avoir une certaine crainte, certaine peur du bistouri, de la douleur, de l'appréhender. Alors il y a une façon de faire qui, à mon avis, est la plus répandue et qui est très efficace, c'est de l'utiliser son imagination pour que cette personne soit comme transportée ailleurs, dans son jardin, enfin là où la personne le souhaite évidemment, dans son jardin, dans un endroit. Cette façon de créer une espèce de virtuel permet à la personne d'être dans un autre contexte. Et dans cet autre contexte, les perceptions douloureuses sont absentes. Si, par exemple, l'enfant dit, et accepte, bien sûr, de faire du VTT ou de faire du ski, alors tout ce qu'il va ressentir la pose de voie veineuse, les changements de pansement, les greffes éventuelles, les ponctions de nodules. Tout ce qu'il va ressentir peut être intégré dans la descente de ski, par exemple. Alors, on dit, voilà, tu vas toucher une branche, voilà, là, ça y est, attention, méfie-toi, tu vas recevoir un petit quelque chose, du jet froid, etc. Et il vit ça dans un contexte où la douleur est absente. Donc on lui a changé le contexte, on lui a créé un virtuel qui est devenu sa réalité dans laquelle la douleur n'a pas de place.
Laurent Jouffroy, c'est quand même assez, ce récit paraît très simple et vous le prononcez d'une façon à induire cette simplicité. Il décrit quand même un phénomène qui est assez extraordinaire puisqu'il y a quand même des doublements d'une certaine façon. Donc on n'est pas trop habitué, par exemple dans la vie courante, ce que raconte Jean-Marc Benayem serait très utile. Chaque fois qu'on ressent une douleur, il suffirait de se transporter ailleurs pour ne plus la ressentir.
Oui, il y a des techniques, par exemple, d'auto-hypnose. Mm-hmm. Si on apprenait aux gens l'auto-hypnose qui consiste à s'hypnotiser soi-même, qui permettent de s'extraire de cette réalité.
Faire la
Mais
même chose
le vit,
sans
on le vit d'ailleurs de façon très, très naturelle, comme l'avait rappelé Jean-Marc Benayem. Je prends un exemple. Les blessés, les polytraumatisés, certains polytraumatisés qui ont des accidents graves avec des douleurs très importantes, on est parfois surpris de voir qu'ils n'ont pas mal parce que ils se créent une espèce de bulle dans lequel ils se placent dans une autre réalité. On peut appeler ça un doublement. C'est une réalité différente. Ils s'extraient de l'extériorité. Et donc, ils sont dans une réalité intérieure qui est différente de ce qui se passe en dehors. Il y a des gens qui sont très gravement blessés, qui ne ressentent aucune douleur de ce fait. Un autre exemple, et ça, c'est quelque chose que tout le monde a vécu. Vous roulez sur le... Moi, qui viens de Strasbourg, par exemple, quand je fais la route en voiture, vous faites 400 ou 500 km. Et puis, au bout de 100 km, vous dites, c'est incroyable, je suis déjà là. Et je ne me suis pas rendu compte des 100 km que je viens d'effectuer. Mais c'est déjà, c'est une illustration de l'hypnose qu'on peut vivre de façon naturelle dans la vie. Et de cette autre réalité, vous êtes là puisque vous conduisez, mais à la fois vous êtes plongé dans vos pensées, vous repensez à vos travaux, enfin, et vous vous rendez compte que vous avez fait 100 km sans vous en rendre compte.
Mais là, on a l'impression que c'est deux états de la conscience. Enfin, c'est pas physique.
L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Oui. C'est un état modifié de conscience. La personne est là, mais c'est un état modifié de conscience. C'est rien d'autre que ça, oui.
Mais c'est très physique.
C'est très physique, oui. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Peut-on opérer sous hypnose ?» Marie-Elisabeth Fémonville, peut-être faut-il préciser tout de même les limites, c'est-à-dire en matière d'opérations qu'il est possible de réaliser sous hypnose, tout n'est pas possible.
Oui, je pense que ça c'est important de mettre en avant. Il y a des types de chirurgie qui sont réalisables. Ça veut dire que il faut absolument que le chirurgien puisse réaliser une anesthésie locale dans le territoire dans lequel on opère. Sans cela, ce ne serait pas suffisamment confortable pour le patient. Donc vous comprenez bien qu'une prothèse de hanche ou une prothèse de genou ou une opération oncologique au niveau du ventre ou au niveau du thorax, des poumons, du cœur, ce sont des interventions qui ne sont pas réalisables sous hypnosédation. Et je pense aussi qu'il faut laisser le choix aux chirurgiens parce que, par exemple, on fait facilement les opérations de la thyroïde sous hypnosédation, mais certaines lésions de la thyroïde sont extrêmement compliquées pour le chirurgien et alors il va dire et décider que ce n'est pas possible de le faire sous hypnosédation. Donc, quand on a une intervention qui est réalisable sous hypnosédation, automatiquement, on demande au patient de rencontrer le chirurgien et c'est le chirurgien qui donne le feu vert si oui ou non on peut faire cette opération sous hypnosédation. Donc la première restriction, c'est le type d'opération que le chirurgien doit réaliser. La deuxième restriction, c'est que le chirurgien lui-même, suivant son habileté, son habitude de faire telle et telle opération, décidera oui ou non s'il veut le faire sur un patient conscient. Puis une autre restriction peut venir des patients, c'est-à-dire que si nous avons un patient non collaborant, c'est impossible de le réaliser. Si par contre nous avons des patients collaborants mais les équipes ne veulent pas, là aussi ça va être difficile de réaliser une hypnosédation. Alors d'autres contre-indications pour l'hypnosédation, c'est quelqu'un qui est allergique aux constituants de l'anesthésie locale. Donc, comme on doit absolument faire une anesthésie locale, à ce moment-là, pour nous, c'est une contre-indication d'utiliser l'hypnosédation. un patient qui a une surdité, ça va être difficile de travailler avec lui parce que s'il a une surdité complète, ça doit passer par les lèvres, par la lecture ou des signes. Et ça, au bloc opératoire, c'est difficile parce que chez nous, quand on utilise l'hypnosédation, ça passe par la parole. Si maintenant le patient a des problèmes cognitifs majeurs, s'il a une démence, une aliénation mentale sévère, à ce moment-là, ça va être difficile de travailler avec lui sous hypnose parce qu'on ne peut pas à ce moment-là fixer son attention et rentrer dans une relation avec lui pour qu'il puisse se mettre dans ce qu'on appelle un processus hypnotique.
Marie-Elisabeth Fémanville, vous travaillez donc au CHU de Liège. Est-ce que vous avez une idée un peu statistique du nombre d'opérations ou du pourcentage d'opérations réalisées dans ce CHU qui sont éligibles de l'utilisation de cette hypnose médicale ?
Oui, actuellement, nous avons plus de 7000 opérations qui ont été réalisées sous hypnosédation. Mais proportionnellement au nombre d'interventions qu'on fait par an, c'est très peu. C'est très peu. Et je pense que ça provient du fait que beaucoup de gens sont encore un peu hésitants parce que cette technique demande effectivement de la part des anesthésistes, des chirurgiens, de changer leurs habitudes de travail. Et il y a des équipes qui sont d'accord, d'autres pas. Maintenant, il y en a d'autres qui disent « c'est une question de temps, on n'a pas le temps ». Et ça, je pense qu'on a pu montrer que ce n'est pas juste parce que quand ça prend à peu près 10 minutes pour l'anesthésiste d'aider un patient à rentrer dans le processus hypnotique, ça demande évidemment de toute l'équipe de se concentrer sur le patient et de ne pas commencer à parler de n'importe quoi. Ça ne doit pas être un silence strict en cours de route, mais il faut quand même que tout le monde concentre son attention sur le patient. Et puis, il y a des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des patients conscients. Ça les effraie. Et s'imaginer, ils sont... Parce que le grand bénéficiaire de la technique, c'est les patients. Pour les équipes, ça demande un changement et ça demande plus de travail, notamment pour les anesthésistes. Ils doivent se former aux techniques hypnotiques. Et ça, certaines équipes ne sont pas d'accord.
Jean-Marc Benayem.
Ce qu'il faut dire, on peut rajouter, c'est que lorsque c'est possible, comme ça vient d'être dit, le bénéfice est considérable. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr moins d'utilisation de médicaments, mais à la rigueur, pourquoi pas en utiliser plus. Mais surtout, on sort d'un risque de traumatisme, c'est-à-dire que les patients sortent de leur peur. Donc j'imagine, par exemple, on imagine bien que pour des patients, par exemple, qui sont atteints de maladies chroniques, de leucémie, qui vont avoir des ponctions répétées, des greffes, eh bien, ils sont dans un contexte complètement différent où ils n'ont plus la peur de la peur du soin, et en particulier les enfants. Et ils vont pouvoir revenir se soigner parce que l'approche est tout à fait tranquille. Ils sont rassurés. Je ne dirais pas que c'est comme un jeu, parce que c'est quand même à l'hôpital, mais ils peuvent le prendre comme quelque chose de simple dans lequel il n'y a plus cet environnement d'angoisse et de peur.
Alors, Marie-Elisabeth Fémanville parlait de cette collaboration nécessaire du patient, justement. On peut imaginer aussi qu'il n'ait pas envie d'être conscient pendant l'opération.
Oui.
Et à ce moment-là, c'est impossible. Je crois que si le patient dit « moi, je voudrais dormir en cours de route et me réveiller quand tout est terminé », à ce moment-là, pour moi, c'est une contre-indication à utiliser l'hypnosédation. Vous avez entièrement raison. Le patient décide si lui ou non, il est d'accord de rester conscient mais confortable et distrait par rapport à la chirurgie.
Et quel est le pourcentage de patients qui adoptent cette attitude par rapport à cette volonté peut-être de ne pas suivre, de ne pas être présent pendant l'opération ? Parce que c'est un peu ça que vous proposez.
Oui, en tout cas, j'ai peut-être un regard un peu biaisé parce que je vois les gens que les chirurgiens, avec lesquels les chirurgiens ont déjà parlé. Mm-hmm. Donc c'est probablement lui qui le propose et c'est là déjà que les gens décident oui ou non. Mm-hmm. Et quand moi je l'explique, c'est exceptionnel que les gens disent « ah non, ça ne m'intéresse pas ». En tout cas, on ne force jamais un patient. Il a le choix. Et je crois que c'est ça aussi, c'est très respectueux envers les patients. Parce que si je ne connais qu'une technique d'anesthésie, mais je coince tout le monde dans la même technique et je ne suis pas à l'écoute des besoins des patients. Par contre, si j'ai une palette de techniques à ma disposition et que si c'est réalisable au niveau chirurgical avec toute la sécurité que ça demande, à ce moment-là, je suis beaucoup plus à l'écoute du patient et je propose quelque chose dont lui, il a besoin. S'il dit, moi, j'ai tellement de craintes par rapport à l'anesthésie générale, où j'ai eu des expériences avec les autres anesthésies, où il m'a fallu une récupération extrêmement lente, j'ai eu des problèmes de cognition, c'est-à-dire j'avais des problèmes de mémoire après, des fatigues énormes, et je ne souhaite plus vivre cette expérience. Mais si je connais la technique d'hypnosédation et que si c'est possible, je peux lui proposer. Si je ne la connais pas, mais je vais dire à ce moment-là, non, c'est pas possible, il faut faire une anesthésie générale.
Laurent Jouffroy.
Oui, en deux mots, pour rebondir, ce que nous avions entendu dans le témoignage de la patiente et de ce que vient de dire Maryse Fémonville, il était extrêmement important de rappeler, et ça, point de vue société savante, que l'exercice de l'hypnose s'inscrit dans le cadre très réglementé, cadré de l'exercice de l'anesthésie en France. Et qu'il n'y a pas de déviance possible. La patiente l'a rappelé, elle était à jeun. Maryse Fémonville vient de le redire. On peut basculer en anesthésie générale. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas une solution dogmatique. Et deuxième point important qu'on vient d'évoquer, c'est que ça s'inscrit dans une organisation générale. Il faut des praticiens convaincus. Il faut un patient convaincu et motivé et confiant. Et il faut un praticien anesthésique formé et qui soit expérimenté. Voilà, donc ce sont des garanties qui permettent de proposer de l'hypnosédation, et j'aime bien le terme hypnosédation qui n'est pas l'hypnose à proprement parler, qui permettent de proposer l'hypnosédation dans les meilleures conditions.
Peut-on opérer sous hypnose? C'est le thème de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques sur France Culture. Nos invités sont Jean-Marc Benayem, qui est praticien au Centre de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, président de l'Association française pour l'étude de l'hypnose médicale, l'AFEHM, qui assure la formation à l'hypnose à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière. Marie-Élisabeth Fémonville est chef de service associé dans le département d'anesthésie-réanimation du Centre de la douleur du CHU de Liège et directrice de ce Centre de la douleur et des soins palliatifs. Laurent Jouffroy, anesthésiste-réanimateur et vice-président de la Société française d'anesthésie-réanimation, l'ASFAR. Comme promis, voici la deuxième partie du témoignage de Nicole Botson, la patiente opérée sous hypnose par Marie-Élisabeth Fémonville, nous raconte là maintenant le détail de ce qu'elle a ressenti pendant l'opération.
L'intervention était prévue le matin à 8h. Je devais être présente une heure avant l'intervention. Je suis arrivée à l'hôpital, inscription dans ma chambre d'hospitalisation. Là, j'ai reçu une petite prémédication, puis on m'a emmenée au bloc opératoire, donc dans le brancard. Je suis arrivée dans la salle d'opération. L'infirmière était présente. Elle m'a tout de suite mise en confiance. C'était vraiment très rassurant. L'anesthésiste était présente aussi. L'anesthésiste m'a bien expliqué qu'elle allait installer une perfusion intraveineuse et tous les monitorings classiques que l'on installe pour une intervention. Elle m'a aussi expliqué donc, que tout était préparé pour une anesthésie générale si c'était nécessaire. Elle m'a demandé si j'étais bien à jeun depuis la veille, donc tout était OK. Elle m'a alors demandé quel souvenir j'aimerais revivre, ce que j'aimais vraiment. Et moi, je lui ai expliqué que j'adorais me promener dans les bois, la découverte de la nature. C'était vraiment ça qui me plaisait. Alors, elle m'a vraiment invitée à me détendre en relâchant tous mes muscles. Puis, elle m'a vraiment accompagnée dans ma promenade dans les bois. tout était suggestion. Elle m'expliquait que je longeais un chemin boisé, que j'arrivais tout près d'un petit ruisseau. Elle me suggérait de regarder des fleurs. Elle me proposait de choisir dans la forêt le chemin suivant, de prendre à gauche, et puis de voir vraiment les arbres autour de moi, d'apprécier. C'était très agréable. Elle me parlait. Moi, j'entendais autour de moi les infirmières qui s'affairaient, qui étaient occupées. Je les entendais qui téléphonaient au chirurgien pour dire que la patiente était prête. La patiente était en fait moi, mais j'étais déjà loin. J'étais vraiment confortable. Je me sentais bien. Et l'anesthésiste avait convenu un code avec moi. Elle m'a dit que si je ressentais de l'inconfort, si je ne me sentais plus confortable, elle me tenait ma main et il suffisait que je presse sa main. Et à ce moment-là, elle précisait au chirurgien que le patient ressentait de l'inconfort. Je l'ai fait une fois et le patient a tout de suite réajusté en injectant un petit anesthésique local. Je n'ai pas ressenti de douleur, sauf une fois, et ça a été très bien intégré dans ma promenade dans les bois. C'était au moment où le chirurgien a prélevé de l'os au niveau du crâne. L'anesthésiste je me souviens de la phrase qu'elle m'a dit à ce moment-là, c'est un peu, on est dans un sous-bois, et il y a des branches qui frôlent votre crâne. Et alors vous sentez certaines branches qui viennent vraiment frotter contre votre crâne. Donc le moment inconfortable de l'intervention a vraiment été intégré dans la promenade que je faisais, et j'ai vraiment trouvé ça assez remarquable.
Donc voilà ce témoignage très, très fort, je trouve, de Nicole Botson sur son expérience d'hypno-sédation. Votre réaction, Marie-Elisabeth Fémanville ?
Je crois qu'elle décrit très bien. Elle décrit qu'on a pris les précautions habituelles, puis elle est venue au bloc opératoire, on a mis les différents monitorings, c'est-à-dire on a surveillé la patiente comme on le fait pour toute opération chirurgicale, puis on interroge le patient à partir d'un événement agréable qu'il est d'accord de revivre en cours de route. C'est comme ça qu'elle a choisi sa promenade, et puis on l'accompagne au fond. L'anesthésiste apprend les techniques d'hypnose. C'est des techniques de communication spécifiques. Et ces techniques permettent, à un moment donné, au patient de glisser vers ce qu'on appelle le processus hypnotique. C'est vraiment quelque chose de spontané. La seule chose qui est indispensable, c'est que le patient collabore avec nous, qu'il nous donne sa confiance et l'autorisation et qu'il est motivé.
Est-ce que je vous coupe là ? Ce qui est spectaculaire quand même, c'est que c'est pour lui une toute première fois. C'est-à-dire, il n'est pas habitué à ce mécanisme. Et pourtant, ça fonctionne dans une situation un peu forte qui est celle d'une opération.
Oui, je pense que c'est là probablement nous sous-estimons nos capacités. Probablement nous n'utilisons pas suffisamment les ressources. On fait peut-être trop vite confiance à des choses extérieures que des médicaments. Parce que, comme elle raconte, l'anesthésie générale est quand même un coma. Et elle voudrait éviter ce coma pharmacologique réversible, évidemment. Et à ce moment-là, elle avait le choix. Et son choix s'est porté vers le fait d'utiliser l'hypnose. Donc sa motivation était très élevée. Et ça a probablement participé au fait qu'elle savait très vite se mettre dans ce processus hypnotique.
Laurent Jouffroy, c'est spectaculaire tout de même. C'est ce naturel aussi avec lequel les choses se passent, au sens où la personne, finalement, au lieu d'être angoissée par l'opération chirurgicale, en profite pour passer un bon moment dans un sous-bois et dans une promenade.
Alors évidemment, ça demande de l'imagination de la part de l'anesthésiste, de façon à pouvoir se calquer sur le bon souvenir, puisque telle est la technique employée chez cette patiente. Ça demande de l'imagination, ça demande de l'entraînement à la communication. L'anesthésiste n'étant là, le praticien qui met en œuvre l'hypnose, la sédation, ne servant finalement que de canne, puisque le patient n'a pas besoin... Enfin, on l'aide à rentrer dans le processus hypnotique. Le patient marche tout seul dans le processus hypnotique. Vous n'êtes que la canne blanche ou la corde à laquelle il se raccroche, la corde de rappel qui lui permet de garder le contact avec l'extérieur.
Ça, c'est une grande différence par rapport à l'image qu'on a peut-être de l'hypnotiseur, oui, qui met le patient sous influence.
Alors ça, c'est un point extrêmement important, et je pense que Maryse Frémonville complétera derrière moi. Il faut bien sortir de ça, hein, au-delà de l'image de l'hypnotiseur de foire. On ne fait pas faire un patient sous hypnose ou sous hypnosidation quelque chose qu'il ne veut pas. Il n'y a pas de viol de l'inconscient d'un patient. Le patient va naturellement là où il veut. Il est plus influençable par le praticien qui l'a fait entrer dans le processus hypnotique. Mais il ne fera rien contre sa propre volonté. C'est extrêmement important à préciser.
Jean-Marc Benayem.
Alors tout à fait, on peut rebondir, mais alors dans la suite de ce qui vient d'être dit, si cela fonctionne si bien, parce qu'on peut dire que ça fonctionne bien, 7000 interventions, eh bien c'est exactement ce que le patient attend. Il attend quelqu'un qui est là, qui ne le prend pas pour un objet, qui a une relation humaine, qui lui propose d'aller faire une pause dans un endroit agréable, et qu'ainsi, il échappe à quelque chose qui est pénible, qui n'est pas son monde, le bloc opératoire, ça ne l'intéresse pas. Alors, s'il est rassuré sur cette prise-là en charge d'une totalité de son corps, alors, en quelque sorte, il donne son corps. Il dit, ben voilà, je vois que j'ai des gens respectueux autour de moi. Eh bien voilà, je vous donne mon corps, faites le soin et là je vous fais confiance. Et moi je m'en vais loin et je suis content de pouvoir m'en aller.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Peut-on opérer sous hypnose ?» Laurent Jouffroy veut ajouter quelque chose.
Oui, juste en terminant pour dire que ce praticien qui accompagne le patient, qui va servir de guide, on peut dire peut-être de guide au patient, il sera là en fin d'intervention pour le ramener à la réalité. Et un des travaux les plus importants, c'est comme tout réveil d'anesthésie, il va falloir aider le patient à revenir dans la réalité. C'est tout un processus qui mérite à chaque étape d'être présent et de rester en relation avec le patient.
Marie-Elisabeth Fémonville, on a un peu l'impression qu'effectivement là, l'anesthésiste joue un rôle important pour ce retour, mais que l'essentiel du processus est déterminé par le patient lui-même, qui choisit à la fois le lieu, qui choisit beaucoup de choses. Ouais. Et donc il n'est pas sous l'influence de l'hypnotiseur comme on le croit parfois.
Oui, je crois que ce qui est important de préciser, c'est l'hypnose, c'est quoi ? L'hypnose, c'est un état de conscience particulier. Alors, pour y entrer, il doit donner son accord, il doit collaborer, il doit avoir confiance et être motivé. Une fois qu'il a glissé dans ce processus de conscience particulier, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'il est accompagné verbalement, comme c'est convenu, avec une voix qui le guide. Mais c'est lui qui fait son voyage. Il décide où il veut aller. Quand on a glissé dans ce processus hypnotique, à ce moment-là, on devient beaucoup plus suggestible. Donc, et on reçoit plus facilement tout ce que l'autre nous dit. Et en même temps, et ça c'est important à savoir, c'est qu'en même temps, on diminue son raisonnement, son jugement et son analyse de la situation. C'est comme ça que la patiente, elle raconte qu'à un moment donné, elle a ressenti un inconfort au niveau du crâne, et le fait qu'à ce moment-là, je l'ai observé, je lui ai suggéré peut-être que ça pouvait arriver, que parfois, quand on se promène dans les bois, on a une branche qui touche, etc. Donc, on intègre tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas un discours qui est stéréotypé, c'est un discours qui est adapté par rapport à ce qui se passe en cours de chirurgie.
Ça veut dire que vous gardez un œil sur tous les mouvements des chirurgiens pour pouvoir justement adapter le scénario de ce voyage.
Oui, et c'est pour ça que ça demande aussi de la part des anesthésistes un travail supplémentaire. Ils doivent regarder leur monitoring, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la quantité d'oxygène dans le sang, la pression artérielle. Et en même temps, ils doivent ajuster les médicaments quand c'est nécessaire. Et en même temps, ils doivent accompagner verbalement et de façon tout à fait adaptée ce qui se passe, le patient, par rapport à ce qui se passe en cours de chirurgie. Et une corollaire par rapport à ce que je viens de dire, le fait qu'on diminue l'attention, le jugement et le raisonnement et qu'on devient plus suggestible, ça veut dire aussi qu'on ne doit pas être naïf par rapport au processus hypnotique. Ça doit se faire avec une grande éthique et une grande rigueur. on ne doit pas se faire, on ne doit pas se laisser mettre en hypnose par n'importe qui. Il faut avoir des compétences. Et nous, on a un leitmotiv par rapport à cela. Nous disons, il faut faire avec l'hypnose ce qu'on sait faire sans hypnose. Donc, si je peux faire des anesthésies au bloc opératoire sans hypnose, je peux me permettre de le faire avec. L'hypnose reste un outil. Et c'est très important, comme il est très puissant, qu'il reste dans des mains des gens qui ont une compétence, une éthique. Et ça, c'est très important aussi de renseigner aux patients.
Donc là, vous revenez un petit peu sur justement cette question du pouvoir du praticien quand il utilise l'hypnose. Ce pouvoir n'est pas totalement négligeable, quand même, d'après ce que vous venez de nous dire à l'instant.
Oui, parce que justement, le mode de fonctionnement de notre cerveau change. Et on devient beaucoup plus suggestible, c'est-à-dire on est beaucoup moins critique par rapport à ce qu'on nous avance. Et ça, même comme dit M. Benayem, il a entièrement raison, et M. Jouffroy, c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand ça nous choque au niveau éthique, on va probablement sortir de l'hypnose, mais on ne va pas se sentir bien. Donc on ne fait pas n'importe quoi, mais d'un autre côté, on est beaucoup plus fragilisé quand on se met en hypnose. Donc on a besoin des gens qui le font, qu'ils aient une grande éthique.
Alors quand ça se passe bien, on va écouter juste les derniers mots de Nicole Botson sur justement cette expérience.
Tout le personnel au bloc opératoire a vraiment un souci du patient. J'ai ressenti, par exemple, j'avais une couverture et j'avais très chaud. L'anesthésiste, elle a ressenti que j'avais très chaud. Elle a dit à une infirmière, il faut lui enlever une couverture. Elle a vraiment beaucoup trop chaud. Donc, moi, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un grand souci du patient de la part de tout le monde. Et ce que j'ai ressenti aussi au bloc opératoire, c'était un grand calme de la part de chaque intervenant, le chirurgien, l'anesthésiste, l'équipe infirmière. Ils se parlent vraiment à voix basse. Et en plus, j'ai ressenti un grand respect de chacun pour les autres intervenants et pour le patient.
Alors Jean-Marc Benayem, là, on voit bien que le patient, c'est une des caractéristiques de ce type d'opération. Et il est présent pendant l'opération. C'est un peu une différence majeure aussi. Hein. On a parlé beaucoup du côté du patient. Mais cette présence peut être, et Marie-Isabelle Fémonville l'a beaucoup dit, gênante pour le personnel qui n'est pas habitué à voir une personne de plus dans le bloc.
C'est vrai que c'est troublant, d'autant que l'image de l'hypnose qu'on a, ce serait plutôt quelqu'un d'absent, qui serait dans ailleurs. Un état second. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un hypnothérapeute qui est hyper présent, même hyper attentif à tout ce qui se passe pour pouvoir réagir. Un patient qui a l'air hyper absent, puisqu'il est en train de faire une promenade en forêt, mais qui est hyper présente là où elle est absente. C'est-à-dire que dans son imagination, elle est hyper présente. Ce qui lui permet d'être complètement, on pourrait dire, d'adhérer totalement à ce qu'elle vit. Et étant dans un autre espace, dans un autre virtuel, alors c'est là qu'elle est conduite et qu'elle est conduite avec toute l'éthique qui correspond. Mais c'est vrai que ça change les donnes, ça les anesthésistes pourraient mieux le dire que moi, ça change la relation puisque le chirurgien en particulier, qui est souvent l'élément perturbateur puisqu'il n'est pas forcément, il n'adhère pas toujours à ce qui se passe, et bien il doit aussi suivre. Mais je crois que du coup, quand ça se passe bien, alors l'ambiance est extra parce que tout le monde vit ça de manière très harmonieuse.
Mais Laurent Jouffroy, ça fait quand même une grosse différence avec l'anesthésiste un peu technicien que l'on imagine, qui surveille des écrans pour voir si tout se passe bien dans les réactions.
Alors que là, Madame Fémonville l'a très bien décrit. Voilà. Elle a dit on fait plusieurs choses à la fois, on fait ce qu'on sait faire. Et en plus, on va rester focalisé sur le patient, sur le bien-être du patient, parce qu'on l'a visuellement, le bien-être du patient. Je raconte une anecdote, puisque quand on fait de l'hypnose ou de l'hypnosédation, on se filme et on review de certains cas. Et je me rappelle d'un jour où on avait filmé une femme pour un lifting facial, on a induit le processus hypnotique, et on a vu qu'elle était en processus hypnotique, puisqu'une fois qu'elle a été... le processus était induit, le chirurgien n'avait pas encore commencé de travailler, on se dit, mais elle n'a plus besoin de lifting. Le relâchement des traits du visage lui avait donné un autre visage. Pour revenir à ce que disait M. Benayem, c'est évident, au niveau de l'ambiance du bloc opératoire, ça change complètement. Alors, je ne dirais pas que le chirurgien est un élément perturbateur, mais il y a un travail qui se fait de concert entre les personnels du bloc opératoire, le chirurgien et l'anesthésiste, qui mettent une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ne serait-ce que par le calme induit par la nécessité de calme autour du patient, alors que quand vous travaillez dans un bloc opératoire, c'est souvent très bruyant. Le bruit est un polluant des blocs opératoires qu'on n'a plus, par exemple. Et un de mes chirurgiens, qui était un des premiers convaincus, qui était un des plus bavards de nos chirurgiens, a appris à se taire ou à parler de façon beaucoup plus calme. Enfin, il y a une ambiance, et il y a une adhésion des personnels qui se fait très rapidement.
Voilà. Il faut une adhésion, absolument. Oui.
Donc il y a plus ce côté, quand même, qu'on peut parfois regretter, quand on voit, alors peut-être de façon mal décrite, mais des séries américaines, par exemple, sur ce qui se passe dans un bloc opératoire, où on voit qu'il y a une espèce de mécanique absolument un peu robotisée.
Il y a une espèce d'élégance dans les gestes qui prend place naturellement, de la part de chacun.
Dans ce type d'anesthésie, il y a une véritable présence donc du patient, et on ne peut pas, j'imagine, de ce que vous avez expliqué, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire du bruit, on peut pas. Donc la grande différence, c'est qu'on tient compte du patient, finalement.
Tient compte que du patient, enfin, pratiquement que du patient. Évidemment, des exigences du chirurgien pour mener à bien
son existe.
Alors, Marie-Elisabeth Fémonville, la question, après tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être de savoir pourquoi, vous l'avez déjà abordé un petit peu, mais pourquoi on ne fait pas plus appel à cette technique d'hypnosédation? Comment voyez-vous un peu la situation internationale en matière de formation des praticiens dans ce domaine?
Je pense qu'une des premières raisons pourquoi on ne l'applique pas plus, c'est parce que les changements, introduire des changements dans les blocs opératoires est une chose plus difficile. Parce qu'on a les habitudes de travail, on pense que si on introduit quelque chose, on va perdre du temps, entre guillemets, parce qu'on a un programme opératoire. Il faut aussi signaler que cette technique demande de la part des anesthésistes et des chirurgiens quand même plus de et de l'équipe opératoire, plus de concentration. Donc, ça fatiguera probablement plus. Donc, il y a des gens qui sont réticents à l'utiliser, et surtout s'imaginer l'utiliser pendant 10-12 heures par jour. Et puis, comme toute nouvelle technique, moins on l'utilise, moins on a l'habitude, et moins on a l'habitude, plus on a de stress. Et je pense que c'est en utilisant régulièrement cette technique qu'on va trouver un confort à l'utiliser, et le stress va diminuer, donc ça va être beaucoup plus facile pour les équipes.
Alors, il faut préciser aussi quand même que pour le patient, vous l'avez déjà évoqué, mais la sortie, la fin de l'opération est beaucoup plus confortable quand on utilise cette technique qu'avec l'anesthésie générale.
C'est incomparable parce qu'au moment où on a terminé, le chirurgien a terminé, nous, par la technique de sortie du processus hypnotique, on demande au patient de reprendre contact avec lui-même, avec la réalité. Et en une minute, le patient a repris contact avec la réalité. On lui dit que tout s'est bien passé. Et à ce moment-là, il peut reprendre l'alimentation. Il retourne dans sa chambre et il est content. Évidemment, pour après, on donne aussi des antidouleurs quand c'est nécessaire. Mais dans nos études, on a montré systématiquement qu'ils utilisent moins d'antidouleurs. Douleur. On a aussi montré que la fatigue après est nettement moindre, donc les patients sont les grands gagnants de cette technique. Mais de la part des équipes opératoires, ça demande des changements et c'est pas gagné au départ. Maintenant, vous avez demandé au niveau l'évolution, au niveau national et international. Oui. Moi, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on va découvrir par rapport à l'anesthésie générale. Vous savez que l'anesthésie générale, on les mécanismes exacts, comment ça marche, et les répercussions à long terme sur l'immunité, sur la cognition, sur le vieillissement, sont peut-être pas tout à fait encore connues. Alors, ça dépend un peu de ce type de recherche. Qu'est-ce qu'on va découvrir par rapport à l'anesthésie générale? Et si à un moment donné, on découvre que ce serait peut-être intéressant de réserver l'anesthésie générale, c'est-à-dire le coma pharmacologique réversible, pour certains types d'interventions, et que ce qui peut être fait sans cela, avec l'hypnosédation ou l'anesthésie loco-régionale, mais en laissant la conscience aux personnes, à ce moment-là, ça va évidemment prendre de l'essor, parce que les équipes se sentent à ce moment-là aussi un peu poussées pour utiliser des techniques autres que l'anesthésie générale, qui à nos yeux actuellement nous paraît facile. Il y a très peu d'accidents d'anesthésie, mais les répercussions ne sont pas tout à fait connues et les mécanismes d'action non plus. Donc je dirais que c'est de là que ça va dépendre l'évolution de cette technique. Maintenant, l'enseignement, bah, on est en train de l'enseigner. Nous, on l'enseigne depuis 94, donc 94. On a formé plus de 400 personnes actuellement. Je pense en France, il y a beaucoup d'endroits de formation où vraiment c'est une formation spécifique pour la douleur aiguë et la douleur chronique.
Alors justement, Jean-Marc Benayem, vous pilotez cette formation à l'hypnose à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière depuis à peu près 8 ans.
Oui, on avait ouvert une autre formation à Ambroise-Paré il y a 12-13 ans. Et puis, la possibilité est venue d'officialiser ce diplôme et ça a pu se faire.
Voilà, un diplôme universitaire qui était un des tout premiers au monde dans ce domaine.
Alors, c'était le premier, oui, c'est vrai. On a cherché s'il y avait eu des équivalents. Il y avait beaucoup d'autres formations, mais universitaire, c'était le premier.
Alors, combien de personnes aujourd'hui en bénéficient, sont titulaires de ce diplôme?
Oh, comme ça fait 8 ans, on a dû former déjà, dans les deux formations, peut-être 700-800 collègues. Et parmi ces collègues, beaucoup d'anesthésistes et maintenant beaucoup de psychiatres.
Alors, Laurent Jouffroy, vous-même avez suivi la formation, mais à Liège à l'époque, donc chez Marie-Elisabeth Fémanville. Quelle est la part des anesthésistes réanimateurs en France qui disposent de cette technique ?
Alors, c'est très difficile de le savoir. Il y a un très gros intérêt, on le voit au moment des congrès, pour l'hypnose. Les formations qui forment réellement à l'hypnosédation, telle que le fait Maryse Fremonville, il y en a, mais il y en a peu. Les inscriptions sont limitées. Il faut pouvoir se former sur un an, deux ans. Il faut pouvoir pratiquer, de la rappeler. On peut s'être formé, mais si on n'a pas la pratique derrière, c'est difficile. Il faut intégrer ça dans un projet médical. Moi, je me suis formé à l'époque avec un de mes associés, mais dans une équipe où vous êtes 7 ou 8 anesthésistes, c'est difficile de porter seul le développement d'un outil complémentaire ou alternatif à l'anesthésie tout seul, parce qu'il va falloir répondre à la demande des chirurgiens, des patients. Donc, ce sont des facteurs limitants qui font que, pour compléter ce qu'a dit Maryse Fremonville auparavant. C'est un projet d'équipe et il va falloir que l'équipe range. Aujourd'hui en France, même si beaucoup d'individus sont intéressés, les équipes d'anesthésie dans les établissements publics ou privés sont très peu nombreuses à pouvoir assurer un service optimal.
Il y a à peu près combien d'anesthésistes réanimateurs en France ?
En France, entre 8 et 10 000 anesthésistes réanimateurs.
Voilà, donc on parle de milliers et d'autre côté de centaines.
Voilà. C'est un peu le rapport. Avec des problèmes démographiques, puisqu'en France, la pratique de l'anesthésie n'est pas tout à fait similaire à celle de ce qui peut se faire en Belgique, par exemple, puisque en France, un anesthésiste peut être amené à s'occuper de deux salles d'opération avec l'aide d'une infirmière spécialisée en anesthésie et qu'il lui est difficile, dans ce cadre-là, d'assumer un patient sous hypnosédation, voire impossible.
Merci beaucoup, notre débat s'achève. Merci à tous nos invités. Je rappelle que Jean-Marc Benayem est praticien au centre de traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, président de l'association française pour l'étude de l'hypnose médicale et association qui assure la formation à l'hypnose à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière. Marie-Elisabeth Fémanville est chef de service associé dans le département d'anesthésie réanimation du centre de la douleur du CHU de Liège qu'elle dirige. Et Laurent Jouffroy est anesthésiste réanimateur, vice-président de la Société française d'anesthésie réanimation, l'ASFAR. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver des références d'ouvrages et de livres parmi lesquels vous pourrez consulter celui qui a été réalisé sous la direction de Jean-Marc Benayem et qui s'appelle l'hypnose aujourd'hui. La semaine prochaine, vendredi 6 octobre, nous vous inviterons à la première émission de Sciences Publiques dans le cadre de notre nouveau partenariat avec la revue Science et Avenir. Premier sujet, comment les rumeurs de fin du monde exploitent la science. Nous recevrons Pascal Froissart, Dominique Lecourt, Dominique Leglu et Victor Stofsowski. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, a été réalisée par Julie Bérécy avec Ariane Herbé à la technique. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h, l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges.